Şimdi gövleceğim ah dilemin dilemin idi vara dalal edemem ah dilemin dilemin idi vara dalal edemem.
Canal Sud 92.2, le magazine du lundi. On reçoit aujourd'hui donc trois personnes. Ils et elles sont kurdes et exilés en France. Alors on va faire juste un rapide tour de table. On va revenir ensuite sur un certain nombre de dates. Toute cette semaine, il y a des actions en soutien au peuple kurde qui actuellement se fait bombarder et massacrer. Et ensuite, on va prendre le temps d'échanger sur vraiment ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici et tout ce que ça provoque. C'est la première fois qu'elle vient ici, Kaline. Bonjour Kaline.
Bonjour.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et bonjour Sejane.
Bonjour.
On s'est déjà vu plusieurs fois, tu es intervenue sur cette antenne plusieurs fois. Ouais. Alors d'un côté c'est toujours une joie de te revoir et c'est toujours triste de se revoir dans ces conditions. Ouais. On rappelle que l'année dernière, donc c'était le siège d'Afrin.
Oui.
Et qui a créé énormément de tristesse et de malheur vraiment dans la population. On avait fait une longue émission, je m'en rappelle. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le Rojava. Le Rojava qui, à ce moment-là, l'année dernière, était dans une période tout à fait... Enfin, il y avait une forme de vie en commun à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, juste si tu peux rapidement nous dire, là, tout de suite, entre l'année dernière et maintenant.
En fait, l'année dernière, encore on était là, comme vous dites. Il y avait... L'histoire de Afrin, la Turquie encore, il a bombardé, encore il a massacré le peuple Afrin. Afrin, c'est une ville de Rojava aussi. C'est une ville qui était tranquille, malgré qu'il y avait la guerre en Syrie, qui a accueilli plein de réfugiés de toutes nations. Qu'ils étaient à Afrin, il y avait une, comment on dit, c'est une ville vraiment tranquille. Mais Erdogan, il a dit, il y a des terroristes, il a commencé à bombarder avec l'accord de tous les pays d'Europe, la Russie et l'Amérique. Et maintenant, les Afrin, les peuples d'Afrin, ils sont exilés, ils ne peuvent pas rentrer. Et leur maison, leur champ sont pris par les membres de Daesh, des djihadistes, des troupes alliées avec Erdogan. Aujourd'hui, on est encore arrivé, malgré que les jeunes Afrin, ils ne peuvent pas rentrer. C'est arrivé maintenant. On pensait que c'est fini, les luttes contre Daesh. Ça doit être installé un peu de stabilité. Ça a recommencé, Erdogan. On dirait que c'est un... un fan gâté des pays d'Europe, d'Amérique et Russie. Maintenant, je trouve que c'est leur, avec leur accord, Erdogan, il a commencé à attaquer à Rojava, surtout la ville de Serikaniye, qui n'est pas loin de Kamishlo. Et maintenant, les gens de là-bas qui sont commencés à exiler d'autre part. On est là. Vraiment, c'est triste. Quand même, on dirait qu'on est tranquille, mais on est de loin de tout ça, mais des bombardements, mais ça fait mal, ça fait mal. On ne sait pas comment on va réagir. C'est une injustice. Les Kurdes, ils ont battu, ils ont donné leur vie. 11 000 femmes et hommes,
Ils sont morts, des
ils sont
combattants qui sont morts.
Qui sont morts en luttant contre Daesh, contre l'islamisme, contre le terrorisme. Et maintenant, ils ont trahi par tous les pays d'Europe. Et encore Erdogan, l'enfant gâté, il a commencé à encore bombarder, soi-disant que ici, il y a des terroristes. La région Rojava, il y avait toujours que c'est une région kurde qui veut vivre dans la paix. Ils sont démocrates, ils sont calmes, mais Erdogan, ils disent qu'il faut, ici, il y a des terroristes, il faut qu'ils vident ici. Où ils vont aller, les Kurdes?
Toute la
Où ils
question, elle
vont
est
aller,
là.
les Kurdes?
Oui, ils vont
Les
aller.
Kurdes, ils sont dans leur maison. Et l'autre jour, j'ai vu, il y a des membres de Daesh, des djihadistes, ils ont mis sur la maison, sur le commerce, en fait, le petit commerce, ils ont écrit leur nom, ils ont réservé déjà. Les villes qui en fait ils ont envahi. Ça, c'est affreux. Quelqu'un qui va venir chez vous, il va dire, sortez ici, c'est chez moi. C'est réservé pour moi. Qu'est-ce que vous allez penser? Imaginez simplement ça. Qu'est-ce que vous allez penser si quelqu'un qui vient ici, sortez ici, c'est chez moi. C'est les Kurdes qui vivent depuis des siècles à Rojava, depuis des siècles. Les Turcs qui sont venus de Mésopotamie, en fait, en Anatolie, et maintenant ils disent qu'ici c'est chez nous et ils considèrent comme terroristes les Kurdes. Ils bombardent les Kurdes, ils utilisent les phosphores blancs avec les bombes chimiques contre les peuples, les civils, pour qu'ils puissent gagner. Il n'est pas honnête, il est peureux, c'est un ennemi vraiment peur, et qui a peureux. Malgré qu'il a autant de techniques, quand même, il préfère de tricher, de faire la crime de la guerre contre les Kurdes. Voilà.
Donc, c'est important tout ce que tu dis, Sejan. On va tout de suite quand même donner les dates. Je
Oui.
te propose de manière à ce que les gens puissent venir vous retrouver et même toutes les personnes donc qui s'insurgent contre ce massacre de civils, hein, parce qu'on rappelle que tu as donné le chiffre de 11 000 combattantes et
Oui.
combattants qui se sont. On pense, voilà, on peut être totalement contre la guerre, mais néanmoins, c'était combattant contre combattant.
Exactement.
Là, les bombardements, ce sont des bombardements sur des civils, femmes, enfants, vieillards.
Exactement.
Enfin, voilà, sans aucun. Voilà. Et donc, vous, à Toulouse, vous êtes très actif, on le rappelle, depuis le
9
9
octobre.
octobre. Hein. Voilà, donc, depuis le début de cette invasion hein, turque en
Cette
Syrie. On
invasion,
rappelle que
oui.
c'est en Syrie hein, que ça se
Exactement.
passe. Hein. Et donc, là, aujourd'hui, on est le lundi 21. Demain, donc, il y a demain, mardi
Allez.
22, entre midi et 2.
Exact. Au Mirail, à l'université de Mirail, il y aura de distribution de tracts. En fait, on accepte toutes les solidarités par les Français. Ils peuvent venir nous aider pour distribuer ce qui se passait, pour expliquer ce qui se passait en Rojava, en nord de Syrie.
Donc, de midi à 14h, vous
Oui.
distribuez le tract. C'est l'occasion aussi de vous rencontrer, hein,
Oui.
de vous rencontrer et d'exprimer la solidarité d'une manière ou d'une autre. Hein.
Exactement.
Mercredi 23 à 19h.
C'est à métro Esquirol. Il y a un rassemblement et après il aura une marche jusqu'au Capitole.
Donc métro Espirol, on rappelle, là, donc c'est justement c'est le métro après ou avant
Oui.
Capitole. Donc l'idée c'est de faire une marche tranquille.
Pour faire rappeler, exactement.
Pour que le centre-ville prenne conscience de Toulouse, prenne conscience de ce que vous vivrez, de ce que votre peuple endure actuellement.
Oui. Hein.
Donc, mercredi 23 à 19h, métro Esquirol. Oui. Le jeudi.
Le jeudi 24, il y aura encore une distribution de tracts à l'université de Mireille.
De midi à 14h.
De midi à 14h, exact. Mmh. Et vendredi 25, à 19h, sûrement, il y aura un rassemblement en marche à partir de 19h à Jean Jaurès. Mais ça va être confirmé encore. On va vous informer pour dire encore si c'est Jean Jaurès ou ailleurs.
D'accord. Donc, du coup, je dis aux auditrices et aux auditeurs de la radio Canal Sud, que donc quand ça va être mis en podcast, on veillera à mieux que la semaine dernière à effectivement vous donner la bonne vérifier que vendredi donc 25 à 19h, ça se tient bien ce rassemblement à Jean Jaurès donc en soutien au peuple kurde, parce que des fois la semaine dernière ça a été très compliqué, vous avez tout dû faire à la dernière minute,
oui.
Il y a eu on rappelle qu'il y avait un changement, samedi c'était à 14h, c'est passé à 11h, compliqué.
C'était compliqué, exactement.
Et oui, les samedis c'est centre-ville, gilets jaunes, beaucoup.
Oui, ok.
Et c'est très violent.
Et c'est pour ça qu'on a commis à dans nos manifestations, il y a des enfants, on ne veut pas que ça, ils se touchent en fait pour faire peur. Notre manif, c'est pour la paix. Et les enfants, ils ont déjà vraiment, ils ont accueillant en fait, ils viennent avec nous. C'est pour ça qu'on ne voulait pas qu'il y aura des problèmes, des soucis aussi au niveau là. C'est pour ça que ça a avancé à 11h. Et beaucoup de gens, ils savaient à 16h, ils sont allés à 16h,
et
mais
oui.
Voilà, il n'y avait rien.
D'accord. On rappelle aussi que vous avez fait la semaine dernière la grève de l'école avec vos enfants.
Oui.
Et une manifestation donc spontanée au Capitole mercredi dernier.
Exactement. Mmh. Avec nos enfants, on a boycotté et les gens qui travaillent en éducation nationale, ils ont fait la grève pour une journée.
En soutien avec nous,
avec un appel de sud-éducation, de Solidarité 31, en fait, sud-éducation, le syndicat sud-éducation, il a fait un appel pour la grève, une journée, une minute de silence, et parler un peu de ce qui s'est passé, et raconter un peu le peuple kurde, en fait.
Ce qui prouve aussi que, voilà, tous ceux qui écoutent, en fait, il y a toujours moyen de faire quelque chose.
Oui.
Il y a toujours. Même ne serait-ce que de marquer une minute de silence, quelque chose, quoi, en tout cas, pas rester insensible.
Exactement. Ce qu'on veut, pour qu'on fait attendre, pour que ça bouge quelque chose, pour que ça arrête les bombardements, pour que la injustice s'arrête à Rojava, à la région kurde.
Et faire réagir les gouvernements européens.
Exactement.
Quoi.
Et voilà. Ils ont dit qu'on a cessé de vendre de l'arme. Je crois que c'était un peu faire taiser ces peuples, mais ils continuent de vendre encore les armes en Turquie. Et nous, on veut que le peuple français soit avec nous pour qu'ils font les réagissements de le gouvernement.
C'est clair. Ouais. Voilà, et donc il y aura aussi moyen, on en reparlera tout à l'heure aussi, donc vous avez un local, donc Sortie de l'Union à Toulouse, on donnera tous les tailles, notamment vous vous retrouvez donc les dimanches en particulier, pas que, il y a d'autres moments, mais c'est aussi un moment où on peut vous retrouver, il y a un petit déjeuner le matin, il y a un déjeuner du midi.
Voilà, il y a petit déjeuner chaque dimanche dans nos locaux à l'Union. Ils peuvent venir, les gens peuvent faire déjeuner de façon kurde et aussi de nous partager, de montrer leur solidarité.
C'est bien, voilà. Ça c'est important. Oui. Maintenant, je vais me tourner donc vers Laurent et vers Kaline qui sont là. Kaline, donc toi, tu es originaire de l'endroit précisément, donc c'est pour dire donc aux auditrices, aux auditeurs, on est très mauvais parfois en géographie. Donc, mais
oui,
tu vas nous expliquer.
Oui, je viens de Ramchlo. Voilà, c'est au nord de Syrie, sur la frontière de Turquie, et j'ai toujours ma famille là-bas. J'ai mon père, ma soeur, mon frère avec la famille, bon, qui vivent à l'enfer maintenant. C'est bon. Si je parle, c'est trop dur pour moi aussi. Hein, ça va. Quand on est loin, on n'arrive pas. On ne peut pas faire quelque chose pour faire une manifestation, pour demander solidarité, d'arrêter la guerre. Il y a des enfants, des milliers qui sont en train de mourir. Des femmes, des personnes âgées. Quand je parle avec la famille, franchement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est parce qu'on est kurde, on est quoi? Voilà. Pourquoi tout ça, il arrive à nous? Pourquoi? On est né kurde, on est kurde, on a fait mal à personne, on est toujours été à côté de le monde. On était à côté de la France, de l'Europe, dans l'autre combat contre Daesh. Et maintenant, quand ils ont disparu, Daesh, il est fini. Maintenant, c'est les Kurdes, ils sont des terroristes. Voilà, retourner entre nous. C'est... Depuis toujours, on est l'ami avec la France. On demande toujours de... Voilà, c'est... Et maintenant, la France, elle tourne le dos. Elle ne veut pas nous aider. Bon, elle dit des paroles, mais sur l'Orgal, il n'y a rien. Il ne fait rien. Il y a toujours des soldats français en Syrie, mais malheureusement, il ne fait rien. Voilà.
Donc, ça, tu as toujours donc, des informations. Il y a des soldats français en Syrie qui ne bougent pas. Qui ne bougent pas et qui laissent faire les massacres et les exactions.
Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne sais pas. Tout le monde le demande. Et là, mes enfants à la maison, quand ils viennent avec moi, les manifestations et tout ça, ils disent « Maman, pourquoi Erdogan il attaque les Kurdes ? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Kurdes des mal à Erdogan ?» On est en Syrie en plus, lui il est en Turquie. C'est pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce qu'on va répondre ? Ils n'ont fait rien. Mais juste parce qu'il va attaquer. Juste parce qu'il, comme il a dit, mon ami, il est comme un enfant gâté, tu nous le donnes, il demande de plus en plus. Laissez les Kurdes tranquilles, laissez les enfants vivre. Laisser les enfants aller à l'école. Il y a Mélanie et ses amis. Ils commencent cette année à aller à l'école. Il était très content d'avoir les cahiers, le cartable. Maintenant, toute l'école est fermée. Ils vivent dans la peur.
Toi, tu as des enfants qui sont ici en France avec toi?
Oui, ouais. J'ai 3 enfants. Ils sont en France ici, oui.
Okay. Ça fait combien de temps que tu es en France, Kaline?
Depuis 2004.
Ça fait longtemps. Hein.
Oui, ça fait longtemps, mais malheureusement, à cause de la guerre et tout ça, je n'ai pas pu aller voir ma famille. Ça fait 10 ans. 10 ans que je n'ai pas vu mon père, ma soeur. Voilà,
tu communiques comment, en fait, avec téléphone,
en fait,
WhatsApp,
WhatsApp. S'il y a Internet, on peut communiquer. S'il n'y a pas, on ne peut pas.
Et voilà. dans quel coin ils sont? C'est un coin plutôt de ville, plutôt de campagne, là où c'est ta famille?
Non, c'est dans la ville.
Dans la ville.
La ville Kramchlo, oui, ils sont dans la ville.
Dans la ville.
Pas trop loin de la frontière de Turquie aussi, voilà.
Et oui.
Des fois, quand je l'appelle, j'entends les bombes. Mais c'est eux qui me montrent le moral et disent t'inquiète, c'est rien. Voilà, on a l'habitude. On est vivant. On dit on est vivant toujours. Et voilà, on a. Je sais pas, c'est notre droit de vivre. Hein, on est vivant, voilà. Je sais pas comment est-ce qu'on va dire. Franchement, c'est l'enfer.
Alors aujourd'hui, c'est l'enfer.
Ouais. Franchement, surtout maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qui va passer demain, parce que le truc, ça finit demain. Le stress et tout ça, quand on parle, même nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on va rester vivant? Est-ce qu'on va rester dans notre maison? Est-ce que Erdogan va nous attaquer encore? Parce que ça fait, voilà, on peut dire quelques jours que les bombes, ils arrêtent. Il est arrêté, mais il ne sait pas qu'est-ce qui va passer après.
Là, actuellement, c'est vraiment, comme tu dis, c'est l'enfer actuellement.
C'est l'enfer.
Est-ce que, plutôt, avant, dans ton histoire, toi, personnelle, avec ta famille, t'as eu d'autres moments comme ça? Ou est-ce que, vraiment, vous avez traversé plutôt des périodes où vous vous sentiez totalement bien dans votre territoire, justement, en tant que Kurde de Syrie?
En fait, depuis toujours, les Kurdes de Syrie. Franchement, moi, j'étais prof quand j'étais en Syrie. Et entre nous, les profs, on ne peut pas parler kurde. Voilà, c'est surtout à l'école avec les enfants et tout ça, c'était interdit. Même quelqu'un, s'il y a un enfant qui est né kurde, il va donner un prénom kurde, c'était interdit. Voilà, c'est... Malheureusement, les Kurdes, ils sont sur son territoire, mais ils n'ont pas de droit. Et nous, on n'a que le droit, on ne demande que notre droit simple, vivre... parler notre langue maternelle. Juste, on ne veut pas faire mal à personne. Mais c'est triste. Franchement, je suis ici, mais moi aussi, je vis l'enfer avec la famille. Franchement, c'est le stress. J'arrive pas à dormir. Je pense toujours. Et si le film fait mal, on ne peut faire rien que faire manifestation, crier pour avoir le soutien de l'Europe. C'est qui malheureusement est en train de fermer les oreilles et les yeux, qui ne voit rien. Parce que l'Erdogan est en train de dire s'il ne nous coûte pas, elle va envoyer les réfugiés, je ne sais pas, et Daesh, c'est...
Les menaces, comme dit.
C'est une menace.
Effectivement.
C'est une menace. Voilà.
Donc, vous intervenez l'une et l'autre quand vous voulez, hein, de toute façon. Là, je me tourne vers Laurent. Laurent, donc, toi, tu es aussi de la même ville ou non?
Non. Ma belle-famille, Karine, c'est mon épouse.
Oui.
Ma belle-famille vit à Kamchlo. Mes parents vivent à Guirkelagé. C'est une région à l'est de Kamchli, à peu près 50 kilomètres. Oui, mais après, on a tous nos amis à Sarekanié. C'est une région où on a nos amis d'enfance, on a nos parents partout, à Rojava. Et c'est catastrophe ce qui se passe. C'est une catastrophe humanitaire qui se passe là-bas. C'est un génocide. C'est un nettoyage ethnique, en fait. Il y avait déjà un bon enfant de l'Empire ottoman. Erdogan fait la même chose. Les Ottomans, ils ont fait un nettoyage ethnique, un génocide contre les Arméniens.
Ah oui, les Arméniens, rappelons-le, au début du siècle dernier.
Tout à fait, 1915, mais Erdogan répète les génocides sous les yeux du monde entier. À l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas des télés, il n'y avait pas... au moins, on avait le prétexte comme quoi on ne savait pas, on n'avait pas vu. Mais aujourd'hui, on sait tout, on voit tout. Et malheureusement, l'inaction de l'Europe est incompréhensible. Et ça nous rappelle les années 30, quand Hitler, le nazisme ou l'armée nazie, il a envahi l'Europe de l'Est, notamment la Pologne, la France ou la Grande-Bretagne de l'époque sont restés inactifs. Et, mais le résultat était quoi? Était l'occupation de Paris en 1940. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale, plus de 50 millions de morts. Tout ça, c'est à cause de l'inaction de l'Europe et du monde libre. Et aujourd'hui, on vit la même chose. Erdogan a envahi le Rojava sous prétexte qu'il combat les terroristes, mais le vrai terroriste, c'est Erdogan. Et c'est pas nous qui avons envahi la Turquie, c'est la Turquie qui a envahi un État souverain qui est la Syrie. Même si on n'est pas d'accord avec le dictateur Bachar el-Assad pour ce qui se passe en Syrie, mais c'est un État souverain qui est reconnu au niveau des Nations Unies. Il est toujours reconnu comme un État souverain. Et la Turquie envahit la Syrie et il y a tout le peuple du Rojava qui est en danger. Il n'y a pas que les Kurdes. Il y a des Kurdes, il y a des Arabes, il y a des chrétiens, il y a des Juifs, il y a des musulmans, il y a des Juifs, il y a des Assyriens, il y a des Syriaques, il y a des Arméniens. C'est toute une composante qui est en danger. Et tous ces peuples-là, toutes ces composantes-là, ils vivaient en paix. Il y avait le parti démocratique syrien et les forces démocratiques syriennes qui protégeaient le Rojava depuis 2002, depuis le retrait des forces du dictateur Bachar el-Assad de notre région.
Parce que oui, il y avait cette période-là, vous avez quand même, à ce moment-là, ça a été dur quand même.
C'était toujours dur. Les quatre parties du Kurdistan, elles vivent l'enfer.
Rappelons-les justement, les quatre parties du Kurdistan.
En fait, depuis les traités...
Donc, il y a Syrie...
Voilà, depuis les traités de Sèvres, il y avait les alliés, dont la France et la Grande-Bretagne, qui ont promis un Kurdistan libre, mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ils sont revenus sur leurs promesses en 1923, lors du traité de Lausanne. Et depuis, les Kurdes, dans les quatre parties, que ce soit en Turquie, il y a à peu près 20 millions à 25 millions de Kurdes en Turquie, que ce soit en Iran, entre 8 et 10 millions de Kurdes qui vivent l'enfer pareil. Sous Saddam, vous savez ce qui s'est passé déjà, il y avait des génocides, et les Kurdes étaient gazés, il y avait le Halabja, plus de 5000 morts en quelques secondes.
En Irak, donc,
En Irak, sous Saddam Hussein. En Syrie, c'était pareil, mon épouse l'a rappelé, on ne pouvait même pas parler notre langue. Sous le parti Baas, ce parti chauvin et nationaliste, c'était vraiment l'enfer. Mais depuis le retrait de l'armée de Bachar en 2012 et la constitution d'une sorte de fédéralisme au Rojava, depuis toutes les composantes de la société syrienne ou kurde, ils vivaient en paix. Et c'était la seule région qui vivait en paix en Syrie. Partout il y a la guerre, mais il y avait un havre de paix qui s'est constitué, tout le monde vivait en harmonie, sauf que Erdogan, et c'est ironique les noms qu'il donne à ces guerres, il a appelé son intervention à Afrin « Rameau d'Olivier ». Alors que l'olivier, c'est un symbole de paix.
Exact.
Mais Erdogan, il a envahi Afrin, une ville à 100% kurde. Il a fait un changement démographique, un nettoyage ethnique. 200 000 personnes qui sont retirées plutôt vers l'est dans les d'autres régions de Rojava, qui vivaient déjà un petit peu en paix. Mais là où Erdogan ne fait pas la guerre tout seul, il fait avec ses supplétifs djihadistes, il a recyclé toute une armée qui a nommé l'armée nationale syrienne, mais en vrai ce sont les anciens membres de Nusra, de Al-Qaïda et de tous les groupes djihadistes en Syrie. Et il fait l'armée avec ces supplétifs-là qui n'ont aucune règle, aucun moral, qui font des exécutions sommaires, qui tuent des innocents, des civils, et c'est pour ça que maintenant, avec leurs interventions aux côtés de l'armée turque, il y a plus de 300 000 personnes qui ont fui leur maison à cause de ces exécutions sommaires. Et il y a encore... Mais ils vont où?
Ils vont aller.
Jusqu'où
Erdogan... Ils sont dans leur maison. Oui, ils vont aller.
Tout à fait. Erdogan va encore aller 30-35 kilomètres en profondeur en Syrie, dans le Rojava. C'est vraiment la région kurde. C'est le but d'Erdogan, c'est pas une... Il a nommé son intervention source de paix.
Mais,
ils se moquent de tout le monde. C'est la seule région qui vivait en paix. C'est plutôt une source de terrorisme. Erdogan, il va ranimer Daesh qui était presque mort, mais il réanime ses cellules dormantes. Et si vous voyez les vidéos sur YouTube ou ailleurs, ce sont des anciens membres de Daesh avec leurs épées et leurs poignards pour égorger les gens qui devancent l'armée turque. Et c'est pour ça que la population civile a peur.
Bien sûr.
Ils fuient parce que ces gens-là, ces ordres de ces bandes armées, ils n'ont aucune règle, ne respectent rien.
Tu disais notamment que cette région du Rojava vivait en paix depuis 2012, on rappelle, notamment parce qu'il y avait aussi le rempart avec les armées kurdes, JPG.
Tout à fait.
Donc notamment, et qui permettait, et on rappelle que ce sont ces armées-là dont on l'a dit tout à l'heure, donc qui ont payé quand même un lourd tribut, 11 000 personnes, 11 000 combattantes et combattants, qui ont arrêté Daesh. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est tout ceci, tout ce bon sens-là, entre guillemets, enfin, en tout cas, le fait de vivre ensemble. Et puis, ce que tu disais, donc il y a les Arméniens, effectivement, en 1915. Il y a donc, on rappelle aussi tout ce qui s'est passé, donc tristement, donc la Seconde Guerre mondiale. Et puis, mais il y a aussi quand même les années 90, là, ici en Europe. Je veux dire, il y a eu la Bosnie, la Serbie, il y a eu des nettoyages ethniques. On sait ce que c'est, on le sait, on l'a vu pratiquement en direct live.
Mais pourquoi on répète toujours l'histoire? Après, si ce sera trop tard, après, de pleurer. Pourquoi maintenant, pourquoi les Français, en fait tous les pays européens, pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi?
Malheureusement, on intervient toujours trop tard. On est intervenu en Irak, mais quand? Après des années et des années d'exécution sommaire, de nettoyage ethnique sous Saddam Hussein, et personne n'a bougé. Sauf on a bougé quand Saddam il a mis les intérêts américains ou européens en danger. Quand il a envahi le Koweït, ils sont intervenus qu'au pour le pétrole. Le sang humain ne compte pas pour les grandes puissances. Et c'est déjà injuste que 5 membres du Conseil de sécurité décident du sort du monde entier.
Absolument.
Et ces veto... Et l'ONU, elle est devenue une organisation morte. Elle ne sert à rien qu'à servir les intérêts des grandes puissances. Et quand on veut bouger, la France y compris, on ne fait pas recours à l'ONU. On sait parce que c'est une organisation morte. Mais on a recours à l'ONU quand on sait d'avance qu'il y a un veto russe ou chinois derrière. Et comme ça, on se dégage de responsabilité. Mais vraiment, c'est tout le monde est responsable de ce qui se passe. En Syrie, il y a 8 ans de guerre et on ne bouge pas parce qu'on se cache derrière le veto russe. Mais quand on veut intervenir, on s'en fout des veto russes ou chinois.
Tu as tout dit, je crois, Laurent, ouais, effectivement. Juste rappeler, là, donc il nous reste peu de temps, malheureusement, mais on reviendra. Vous êtes bienvenue sur cette antenne, tant qu'il le faudra. Tant qu'il le faudra.
En fait, on attend beaucoup, beaucoup de la France, en tant qu'allié, en tant qu'ami, depuis Mitterrand, on fait confiance à la France. On aimerait que la France bouge et fait bouger l'Europe. L'Europe, en tant que... C'est la seule nation que des droits de l'homme qu'on fait confiance. L'imprévisible Trump, il change d'avis toutes les heures. Et avec le terroriste Erdogan, ce dictateur, c'est cet islamiste qui réanime toutes les cellules dormantes de Daesh. Il faut bouger. Et déjà la France, elle essaye, mais les paroles ne suffisent plus. Il faut des actes. Le peuple kurde attend beaucoup de la France.
Kaline, si tu veux ajouter quelque chose, peut-être.
Oui. On entend beaucoup de France, comme a dit mon mari. Franchement, parce qu'il... Des fois, quand il m'appelle les amis et tout ça, qu'est-ce qui se passe en France ici? Est-ce que vous attendez que Macron va faire quelque chose ou non? On dit arrêtez la guerre. Arrêtez la guerre contre les Kurdes. On est des humains comme vous. On veut vivre en paix, nous aussi. On n'a rien fait, on est des peuples. On n'a fait rien à personne. Juste, s'il vous plaît, arrêtez la guerre, laissez les enfants et les femmes vivre tranquilles. Voilà, merci.
Super. Et puis, un petit rappel aussi, tu avais dit que là, actuellement, il y a aussi, même parmi ces règles dégueulasses de la guerre, il y a ce truc donc, notamment, on a retrouvé des traces de phosphore, et ça, c'est parfaitement interdit dans les règles qu'ils ont édictées.
C'est interdit, mais malgré ça, la Turquie l'utilise, et aucun pays, il réagit. Vraiment, c'est un crime de guerre, ce qu'elle fait, il fait à Erdogan. On dirait que c'est un rêve, c'est un cauchemar, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar qui, quand on se réveille, en fait, ça va finir. C'est pour ça qu'on attend beaucoup d'Europe, on attend beaucoup de choses de France pour qu'ils réagissent assez rapidement, pour que la guerre s'arrête. Les enfants qui, en fait, le visage et le corps des enfants qu'on voit brûlés avec la bombe phosphore blanc, c'est affreux, c'est comme la bombe atomique qu'ils jetaient exactement, c'est le même, en fait, quand on compare, c'est la même chose, c'est le même cri, c'est le même, même douleur sur le photo, on sent la douleur qu'il vit, quoi. C'est pour ça que il faut réagir assez rapidement pour que ça arrête cette folie de Erdogan.
En fait, chaque fois qu'Erdogan il a un revers électoral, que soit il a perdu la municipalité d'Istanbul, tout ça, pour détourner l'attention publique, il fait une guerre extérieure. Il intervient pour se rallier les nationalistes turcs et c'est affreux. C'est après ce qui se passe. Ouais.
Donc, appel à toutes et à tous qui écoutez, et faites-le savoir aussi à ceux que vous connaissez, qui vous sont proches, donc les Kurdes de Toulouse vous interpellent et vous donnent rendez-vous. Soit ils seront donc et mardi 22 et jeudi 24, entre midi et 14h, au Mirail, pour une distribution de tracts. Vous êtes toutes bienvenues, tous bienvenus pour venir distribuer avec eux, pour venir, voilà, simplement vous renseigner, essayer de comprendre, voilà, échanger avec eux. Mercredi 23, c'est au métro Esquirol à 19h qu'a lieu donc le rendez-vous pour une marche en direction du Capitole pour dénoncer donc tout ce qui se passe actuellement. Exactement. Et qu'il n'est pas question de rester sans rien faire. Vendredi, on le confirmera très rapidement, mais a priori, le rendez-vous serait au métro Jean Jaurès pour un rassemblement et une marche, encore une fois. Ah, et bien entendu, donc il y a le local également.
Le local à Lyon, à la sortie de 14, dans la zone artisanale de Loubet. On a un local et chaque dimanche, il y a des petits déjeuners avec, en fait, les Kurdes. façon kurde, vous pouvez venir, bienvenue tout ce qu'il vient pour partager avec nous.
Et vous avez notamment aussi, on le rappelle, vous avez donc le Facebook, mais je ne sais pas si je dis une bêtise.
Oui, c'est communauté kurde à Toulouse. Il y a une page Facebook. Vous pouvez avoir des informations sur ce page-là aussi.
Voilà, donc et notamment aussi par le biais donc du CDK, le Conseil démocratique de Kurdes en France.
Oui, oui.
Merci infiniment, Sejane.
Merci
Laurent.
Fatima.
Merci également, Kaline.
Merci.
À très bientôt, et puis tant qu'il le faudra. Vous êtes bien sur Radio Canal Sud. Voilà, on va mettre le petit son de fond. Et je remercie de tout cœur aussi Nadine, qui a grave assuré pour
merci
sa première... Première formation technique, je sens j'ai envie qu'elle reste. À très bientôt, vous êtes sur le 92.2. Maintenant, ça va être la suite des émissions. C'est la rediffusion de Black Connection après ces quelques accords de Temo, poète kurde.